Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ouvine et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Pierrick Monsigny.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Comme chaque vendredi, nous vous proposons un débat d'actualité économique. Aujourd'hui, notre regard se porte sur le Royaume-Uni, dernier épisode de la série à rebondissement du Brexit. Quo vadis, où allez-vous donc ? La question a été posée à Boris Johnson par Donald Tusk, le président du Conseil européen, dans un tweet lapidaire, appelant le Premier ministre britannique à cesser, je cite, « le jeu stupide des reproches ». La tension ne cesse de monter à quelques jours d'un sommet européen décisif et à 3 semaines de la date butoir du Brexit fixée au 31 octobre. Les dernières propositions de Londres n'ont pas convaincu Bruxelles et seule la rencontre hier entre Boris Johnson et son homologue irlandais Leo Varadkar semble autoriser encore les espoirs d'une sortie avec accord. Le Royaume-Uni et l'Union européenne sont-ils prêts à affronter un no deal ? Comment les entreprises se sont-elles préparées au Brexit ? Et un divorce sans accord peut-il encore être évité ? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. À 14h50, comme un vendredi sur deux, nous retrouverons notre partenaire d'Alternatives économiques. Aujourd'hui, c'est Catherine André qui nous donnera des nouvelles de l'écho. Et pour parler des bouleversements économiques autour du Brexit, 3 invités autour de la table. Bonjour Catherine Mathieu.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, et co-autrice avec Henri Sterdignac du chapitre « Brexit, une sortie impossible ?» point d'interrogation paru dans l'économie européenne 2019 à la découverte. À vos côtés, Thierry Drillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-britannique. Et enfin, Jimmy Zou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associé et correspondant Brexit pour le cabinet d'audit international PwC France. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Nous avons le droit de protéger notre union douanière et nous avons le droit de sortir en tant qu'État souverain. Donc, avec tout le respect que je dois à tous ceux qui sont actuellement inquiets, en particulier en Irlande, nous pensons que nos propositions sont bonnes et créatives, mais j'accepte aussi qu'il pourrait y avoir des années difficiles à venir.
Les négociateurs britanniques nous ont donc fait part de leurs propositions. Et pour dire les choses simplement et franchement, avec objectivité, au moment où je vous parle, nous ne sommes pas au point d'envisager et de trouver un accord.
J'ai eu une très bonne rencontre aujourd'hui avec le Premier ministre et nos équipes, très positive et très prometteuse. Je suis maintenant absolument convaincue que l'Irlande et la Grande-Bretagne veulent trouver un accord dans l'intérêt de l'Irlande, du Royaume-Uni et de l'Union européenne dans son ensemble. Et je vois un chemin vers un accord dans les prochaines semaines.
Voilà, on entendait dans l'ordre le Premier ministre britannique Boris Johnson, puis Michel Barnier, le négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne, et Leo Varadkar, le Premier ministre irlandais. Et à l'instant, Michel Barnier a salué une rencontre constructive qui a eu lieu ce matin avec Stephen Barclay, le secrétaire d'État britannique en charge du Brexit. Alors, est-ce que c'est une déclaration qui ravive l'espoir d'un accord, Catherine Mathieu ?
Oui, sans doute, hein, parce que il faut bien voir comme à l'instant on l'entendait avec l'extrait de voix de Michel Barnier, il y a 2-3 jours, on était vraiment au stade où les négociations étaient à l'arrêt et où on ne voyait pas du tout comment un accord pourrait se faire d'ici le prochain sommet européen des 17 et 18 octobre. Alors c'est vrai que la rencontre qui a eu lieu hier entre Leo Varadkar, le Premier ministre irlandais, et Boris Johnson, le Premier ministre britannique, apparemment a permis à chacun des deux de dire que oui, il y avait un chemin possible pour un accord. Et ce qui me semble pour l'instant tout de même assez étonnant, c'est qu'on n'a aucun élément précis qui est filtré de cette rencontre, où apparemment les deux hommes étaient en tête à tête, ont discuté pendant plus de 2 heures, et sont sortis donc avec l'idée qu'il pourrait y avoir un accord. Quel type d'accord là, c'est vraiment aujourd'hui le grand point d'interrogation.
Aucun élément précis n'a filtré non plus de la réunion d'hier entre le Premier ministre irlandais et le Premier ministre britannique. Vous y voyez tout de même, Thierry Drillon, dans cette déclaration de Michel Barnier, la réponse de l'Union européenne à l'Irlande hier, avec cette idée que si l'Irlande lève son veto, l'Union européenne suivra.
Vous savez, c'est un peu comme une série télévisée américaine. Et j'oserais dire que cette série est une suite de feuilletons, et peut-être pas les meilleurs feuilletons d'ailleurs, en tout cas pour le monde de l'entreprise. Alors est-ce que demain il y aura accord ou pas accord? Je pense que le vrai sujet, on en parlera, c'est au-delà du Brexit. Parce que le Brexit est un moment, mais au-delà du Brexit. On est finalement dans des positions où chacun monte ses muscles. On est dans des postures. Je crois qu'il faut aller très au-delà de tout cela.
Ce que vous voulez dire, c'est que pour les entreprises, peut-être cette annonce de Michel Barnier, cette déclaration n'est pas une bonne nouvelle, parce que finalement, l'incertitude est pire que tout, Jimmy Zhu.
Oui, mais clairement, comme veut le dire Thierry, on a du mal à croire, à comprendre ce que ces personnes ont pu trouver de positif après une réunion de 2 heures sur un sujet qui traîne depuis 3 ans. Donc, si vous voulez, on veut bien croire que c'est... Enfin, on espère juste que ce n'est pas l'ultime soubresaut avant on ne sait pas quoi d'ailleurs. Hein. Donc il est clair que les entreprises avec des informations aussi peu précises, aussi peu objectives, elles doivent décider autrement. Et donc aujourd'hui c'est le autrement qu'elles préparent. Donc on en parlera tout à l'heure hein, de toutes ces mesures qu'elles prennent. Les politiques aujourd'hui, elles n'ont plus confiance. Voilà, dans ce moment politique, parce qu'aujourd'hui, le mal est presque déjà fait, si vous voulez. Donc maintenant, le moment est vraiment le moment d'après.
On a le sentiment aujourd'hui, avec le fait que les 27 ont donné leur feu vert à Michel Barnier à des négociations intensives d'ici au sommet de la semaine prochaine, qu'il y a véritablement une volonté de l'Union européenne d'obtenir un accord coûte que coûte, Catherine Mathieu.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de part et d'autre, hein, que ce soit du côté de l'Union européenne comme du côté des Britanniques, le souhait d'éviter une sortie sans accord. Cette sortie sans accord interviendrait le 31 octobre, si aucun ne bouge, aucun ne change de position. Et donc, en fait, il faut très rapidement arriver à avancer sur un accord si on veut éviter cette situation de sortie sans accord. Et je pense que depuis plusieurs jours, là où les discussions ont vraiment avancé et ont été, et je pense sans doute restent encore très difficiles aujourd'hui, c'est sur la question de la frontière irlandaise. C'est sur ce point que Boris Johnson a souhaité renégocier avec l'Union européenne depuis qu'il est devenu Premier ministre. En fait, pour le dire simplement, aujourd'hui, le Royaume-Uni fait partie de l'Union européenne. Donc, il n'y a pas de frontière entre le Royaume-Uni et les autres pays de l'Union européenne. Il y a la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux, des services.
Il faut éviter absolument le rétablissement de cette frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande qui remettra en question les accords de paix de 1998.
Voilà. Alors, effectivement, si le Royaume-Uni sort sans accord... Effectivement, dès le lendemain, en principe, une frontière est rétablie. Ce qu'on nous dit de côté britannique maintenant depuis plusieurs semaines, c'est que tout sera fait pour éviter le retour d'une frontière et maintenir les accords de paix. Du côté de l'Union européenne, on dit aussi on souhaite maintenir les accords de paix, mais on ne pourra pas éviter de remettre une frontière. Et donc, en fait, il y a cette discussion qui est vraiment devenue une discussion très concrète. Est-ce qu'on peut arriver à l'intérieur de l'Irlande à mettre en place une frontière qui ne serait pas une frontière physique, puisque ça c'est vraiment la condition pour assurer qu'on n'ait pas le retour de tensions en Irlande. Est-ce qu'on peut arriver à mettre en place une frontière plus légère, comme le disent aujourd'hui les Britanniques, en disant oui, on peut avoir une frontière où on aura un contrôle des marchandises au niveau des ports ou pour les animaux au niveau des départs des exploitations agricoles, et on pourrait arriver à garder en fait une intégration économique assez importante à l'intérieur de l'Irlande sans remettre en place de frontières physiques.
Thierry Drillon.
Moi, je voudrais vous faire 2 remarques. La première, c'est que vous avez parlé de l'Europe et vous avez tout à fait raison. Et je crois que l'Europe, en observateur finalement de l'ensemble de ses relations économiques, l'Europe a joué un rôle juste absolument remarquable. Michel Barnier et ses équipes ont fait preuve de beaucoup de patience, ont été force de proposition depuis maintenant 3 ans. Et quelque part aujourd'hui, ils sont tous d'accord sur à peu près 97 ou 98, voire 99% de l'ensemble des éléments que vous avez rappelés, madame. Il reste effectivement ce sujet de la frontière avec Irlande. Mais je voudrais quand même rappeler un principe assez simple, qui est finalement, on est ou on n'est pas. On est dedans ou on n'est pas dedans. Et je pense que ce principe-là, il est plutôt assez sain. Et pour le dirigeant d'entreprise que je suis, c'est important. Le deuxième remarque que je ferai, c'est que Finalement, on parle beaucoup de sujets, mais le vrai, c'est quoi? Ce sont l'ensemble des transactions économiques entre les différents pays. Prenez juste un chiffre. Entre la France et le Royaume-Uni, c'est 95 milliards d'euros de transactions économiques. Est-ce que vous imaginez le nombre d'emplois qu'il y a à l'appui? Et je pense qu'il faut qu'on parle des vrais sujets.
Alors justement, c'est intéressant, puisque ce n'est peut-être pas le point de vue de tout le monde, mais en l'occurrence, c'est peut-être un tour de force diplomatique qu'a réussi l'Irlande en se plaçant précisément au cœur des négociations actuelles, Jimmy Zhu.
Oui, tout à fait. Enfin, pour revenir une minute sur ce sujet de frontières plus ou moins intelligentes, je rappelle qu'entre le Canada et les États-Unis, il n'y a pas de frontières physiques. Hein, et c'est pourtant, ce sont deux pays qui ne font pas partie, d'une union intégrée. Donc, quelque part, ça veut dire que c'est très facile à créer une frontière intelligente.
Qu'est-ce que vous appelez une frontière intelligente?
Une frontière intelligente, c'est quoi? C'est éviter donc des frontières physiques. Hein. Vous imaginez construire un mur entre les États-Unis et le Canada. Enfin, c'est pas pensable. Je sais que Donald Trump y pense pour le Mexique, mais on voit bien que cela relève presque du ridicule. Non. Une frontière intelligente, c'est quelque part dès le départ. Dès qu'une entreprise sait qu'elle transférera des biens dans un autre pays, en fait, il y a toute une mécanique dite de pré-immatriculation qui peut être faite hein, sur les produits en question. Il faut sceller après les marchandises. Après, il y a tout un traçage qui peut être fait de manière plus ou moins mécanique. Il y a des sociétés qui sont habilitées à faire ces transports. Ce sont des choses qui existent depuis aujourd'hui 10-15 ans aux États-Unis. Mmh.
Mais alors pour cela, il faudrait un accord de libre-échange entre l'Irlande et le Royaume-Uni.
Non, mais là, aujourd'hui, dans le pire des cas, c'est-à-dire si on a une frontière, aujourd'hui, il y a deux sujets. Il y a l'union douanière et le marché unique. Hein, donc voilà. Ce sont deux sujets un peu différents parce qu'il y a l'aspect douane et l'aspect taxe hein, qui arrive en plus au niveau de l'union douanière. Donc, dans le cas où il n'y aurait pas d'accord et qu'on serait à une frontière, pas physique, mais une frontière dure, mais cela veut dire qu'il faudrait mettre un système, on va dire, à la canadienne ou à l'américaine, entre ces deux pays. Donc voilà, et ça, on sait faire aujourd'hui. Je rappelle également qu'avant fin octobre, on parlait de fin mars, hein, je ne sais pas si les gens oublient vite, à la fin du mois de mars, la France avait déjà prévu qu'on allait sur un scénario de type hard Brexit, on avait déjà prévu qu'on aurait une frontière un peu physique, enfin pas physique, mais un peu dur, entre la Grande-Bretagne et la France. Et donc, lorsque la France a créé ce système d'information Brexit, hein, ce fameux SI Brexit, et le recrutement programmé de ses 700 douaniers, hein, ce qu'elle avait prévu, on avait un système un peu à l'américaine qui a été reproduit, immatriculation avant le transport via la mer ou via le tunnel, et après tout ce qui est...
Ce que vous voulez dire, Jimmy Zhu, c'est qu'effectivement, la perspective d'un Brexit sans accord a déjà eu lieu et a permis une certaine préparation des entreprises, des États, on va y revenir. Mais d'abord, est-ce que c'est ne serait-ce que possible cette sortie sans accord? Boris Johnson s'est dit prêt à un no deal, mais est-ce qu'il peut passer en force alors qu'il y a eu ce Benn Act qui a été voté par le Parlement britannique, qui interdit une sortie sans accord, Catherine Mathieu?
Oui, en fait, Boris Johnson s'est surtout dit prêt à... Si on repose la façon dont Boris Johnson a dit les choses, c'est qu'il souhaitait un accord avec l'Union européenne, mais que le Royaume-Uni sortirait, quoi qu'il en soit, le 31 octobre. Je pense que dans sa stratégie de négociation, l'idée, c'était vraiment d'obtenir un accord avec l'Union européenne avant le 31 octobre et d'éviter qu'on repousse une nouvelle fois la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce sur quoi, je pense, un grand nombre de pays de l'Union européenne sont aussi d'accord, parce qu'on a déjà effectivement repoussé, comme vous le disiez à l'instant, Jimmy Zhu, la première date envisagée, qui était la fin mars 2019 à octobre 2019. On parle depuis quelques jours du côté de l'Union européenne de repousser à juin 2020. Donc c'est toujours en fait la même question, repousser, d'accord, mais pourquoi? Donc d'un certain point de vue, je dirais de la part de Boris Johnson, dire il faut qu'on sorte de l'Union européenne le 31 octobre, quoi qu'il advienne, c'est une façon de faire, je pense, accélérer les choses. Alors ensuite, effectivement, on a vu aussi que il serait prêt à une sortie sans accord. Dans le fond, ce que souhaite Boris Johnson, surtout, c'est que le Royaume-Uni reprenne sa liberté, notamment en matière commerciale, et donc sorte de l'union douanière européenne et puisse négocier des accords de libre-échange avec les pays hors Union européenne. Donc, il est prêt à prendre ce risque. Il pense que ce serait quelque chose de positif pour le Royaume-Uni. Ça engagerait le Royaume-Uni vers un modèle de plus en plus libéralisé. Ça, c'est la position de Johnson. Mais effectivement, le Parlement britannique a voté une disposition qui interdit, en fait, à Boris Johnson de faire une sortie sans accord et qui lui demande, s'il n'y a pas eu d'accord avec l'Union européenne avant le 19 octobre, d'ailleurs, même précisément, de demander un report auprès de l'Union européenne. Et ça, Boris Johnson dit non, je ne demanderai pas de report. Et donc, je pense aussi que ça fait partie des raisons pour lesquelles il souhaite absolument négocier dans les jours qui viennent.
Et donc, c'est le pouvoir judiciaire qui devrait trancher au Royaume-Uni en invoquant la jurisprudence.
Je pense plutôt qu'en fait, tout de même, Boris Johnson n'ira pas contre ce qu'a voté le Parlement britannique. Alors, on peut faire de nombreuses hypothèses. Ça m'étonnerait tout de même. Il y a quand même un poids de la démocratie qui est très important au Royaume-Uni. Et si Boris Johnson allait contre cette disposition du Parlement, ça serait quand même très étonnant, selon moi.
Est-ce que Thierry Drillon, en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-britannique, aujourd'hui, vous dites « Oui, je souhaite un report pour les raisons que vous nous direz » ou au contraire, « Je suis prêt à ce qu'il y ait un Brexit sans accord ».
Vous savez, j'oserais dire que le sens de l'humour des dirigeants, quelles que soient les entreprises, petites, moyennes ou grandes, aurait tendance à se flétrir légèrement aujourd'hui. Donc je crois qu'il vaut mieux une
C'est
décision.
Joli euphémisme.
Je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui une décision.
Donc un Brexit dans un sans sens, accord.
Voilà. Oui. Peu importe. Hein, parce qu'on a dit beaucoup de choses et beaucoup de choses fausses. Moi, ce qui est important, c'est de voir, en tant que dirigeant d'entreprise, est-ce que je suis prêt aux différentes alternatives ou est-ce que je ne suis pas prêt. Aujourd'hui, les dirigeants des grandes entreprises sont prêts, et depuis très longtemps. Jimmy, vous l'a rappelé tout à l'heure, il y a eu un énorme travail qui a été fait, notamment par le gouvernement français, pour accompagner les entreprises. Les entreprises de taille intermédiaire se sont fait aider par un certain nombre de prestataires extérieurs et sont plutôt bien préparées. Ce qui m'inquiète plus, ce sont toutes ces petites PME, PMI, qui font des transactions ponctuelles avec le Royaume-Uni et qui demain seront amenées à faire des transactions avec d'autres pays. Mais vous savez, un dirigeant d'entreprise, il a dans son ADN la nécessité tous les jours de faire face à des difficultés, à des challenges et d'être agile. Donc si demain, malheureusement, des transactions ne devaient plus passer par une partie de l'Europe, mais par une autre partie de l'Europe, en tant que dirigeant d'entreprise, responsable, nous aurions à le faire.
Mais la perspective d'un accord ou non change tout de même la donne, en l'occurrence. Si, comme le dit Catherine Mathieu, Boris Johnson demande un report, on a du mal à imaginer que l'Union européenne refuse ce report et endosse de ce fait la responsabilité d'une sortie sans accord, Jimmy Zhu.
Oui, parce que la question, c'est toujours la même. Hein. C'est on reporte, pourquoi pas, mais pourquoi faire ? Je rappelle qu'entre fin mars et fin octobre, il ne s'est rien passé. Il y a même des entreprises qui étaient prêtes, en fait. Bon, beaucoup n'étaient pas prêtes fin mars, étaient plutôt prêtes mi-avril, mais elles étaient déjà quand même prêtes. Barclays, vous avez dû voir le communiqué d'hier, il était prêt, il a tout fait, et je sais que c'est vrai. Ça.
Oui, mais est-ce que c'est tenable politiquement pour l'Union européenne de refuser un report ?
Mais écoutez, aujourd'hui, celui qui était le plus vocal, c'est notre président, notre président français. C'est vrai que quelque part, prendre ses responsabilités-là, c'est un peu dur, c'est un peu fort. En même temps, je rappelle que si on ne fait rien qu'on reporte, donc on parle du 26 novembre, j'ai en tête le 7 décembre, j'ai en tête fin juin. Franchement, Thierry l'a rappelé, c'est criminel pour les entreprises.
D'autant qu'il y a quand même eu un certain nombre de compromis qui ont été avancés par Boris Johnson. Catherine Mathieu, est-ce qu'il ne faut pas les prendre en compte, ces propositions nouvelles ?
Je pense que si, c'est important, parce qu'effectivement, cette question, la question sur laquelle le Parlement britannique a vraiment buté dans sa majorité, dans l'accord de retrait qu'avait négocié Theresa May avec l'Union européenne, c'est la question de la frontière irlandaise, hein, le filet de sécurité irlandais.
Le fameux backstop
qui, en fait, tel qu'il a été validé par Theresa May et l'Union européenne, fait que si le Royaume-Uni sort de façon ordonnée de l'Union européenne, il restera le Royaume-Uni, dont l'Irlande du Nord, dans l'union douanière avec l'Union européenne, de façon infini, et que si un jour le Royaume-Uni souhaite sortir de l'union douanière, il faudra qu'il obtienne l'accord de l'Union européenne. Donc ça pose un grand problème. Ça veut dire qu'un pays se retrouve ne plus avoir la souveraineté sur les décisions qu'il prend en matière de politique commerciale. C'est tout de même un problème de fond.
Mais il y a une proposition qui a émergé autour du fait de limiter ce backstop dans le temps, avec la question qui est-ce que Dublin acceptera ?
Voilà, et donc en fait depuis plusieurs mois, au niveau du Parlement britannique, on a avancé cette question, de dire bon, faisons un backstop qui intervienne de façon limitée. À chaque fois que le gouvernement britannique a émis des propositions, on a toujours eu du côté de l'Union européenne une fin de non-recevoir, en disant nous souhaitons d'abord préserver l'intégrité de l'Union européenne. On comprend bien le point de vue des négociateurs de l'Union européenne, mais on ne souhaite pas du tout revenir donc sur cette question du fameux backstop. Alors et on dit aux Britanniques du côté de l'Union européenne, mais faites-nous des propositions. Donc la semaine dernière, Boris Johnson a fait une proposition qu'il a appelée une proposition de compromis, où effectivement il proposait que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne de façon ordonnée, que l'Irlande du Nord reste dans l'union douanière, mais pour une période de 4 ans, et en disant, en fait, tous les 4 ans, ce sera le Parlement nord-irlandais qui décidera si l'Irlande du Nord reste dans l'union douanière ou pas. Ça me semblait être un élément important, et ça m'a d'ailleurs fait penser que depuis qu'on négocie sur la question du Brexit, on a rarement entendu parler d'exercice de démocratie au niveau de l'Irlande du Nord. En fait, que souhaite l'Irlande du Nord ? Que souhaitent les Irlandais du Nord en termes d'intégration économique et commerciale avec la République d'Irlande ou avec le Royaume-Uni ? Ça, c'est une question qui n'a jamais été véritablement posée.
Sachant que le Parti unioniste, il faut le rappeler, fait partie de la coalition qui est actuellement au pouvoir au Parlement britannique.
Tout à fait. Donc, on a d'un côté le Parti unioniste irlandais qui, lui, dit clairement depuis le début, nous souhaitons que l'Irlande du Nord reste dans l'union douanière, reste dans le, continue à faire partie du Royaume-Uni. Mais de l'autre côté, on a des indépendantistes irlandais qui disent aussi nous souhaiterions que l'Irlande du Nord devienne indépendante, voire fasse partie de la République d'Irlande. Donc il y a une question qui se pose sur le fond, en fait, de ce que souhaite l'Irlande du Nord aujourd'hui. Et jusqu'à présent, en tout cas, la position de l'Union européenne avait été de dire, enfin jusqu'à ce matin, que la proposition de Boris Johnson n'était pas acceptable, qu'elle n'était pas suffisamment sûre, puisque tous les 4 ans, ça remettrait en fait en question cette question du filet de sécurité irlandais. Alors je ne sais pas si c'est sur ce point-là que précisément hier, Varadkar et Johnson ont réussi à trouver un nouveau compromis.
Jimmy Zou.
Enfin, oui, mon point là-dessus, c'est que je trouve personnellement que ce sujet de backstop était une mauvaise idée, c'était une bêtise. Voyez-vous,
parce que dans quel sens ?
Dans le sens où on vous dit que vous quittez l'Union européenne mais que vous restez dans l'Union douanière. Écoutez, non, c'était une bêtise par construction. Donc écoutez, que sans cela entraîner autant de rejets ne m'étonne pas. Ce qui m'étonne, c'est même que ça a été proposé et que c'était accepté dans un accord. Franchement, la proposition de Boris Johnson, finalement, elle est moins bête, devrais-je dire. Par contre, le sujet que vous mentionnez, qui est de dire, en effet, on n'a jamais vu comme ça une expression d'un parti de l'Irlande du Nord qui va décider pour elle-même tous les 4 ans. En effet, on est plus de 20 ans, je rappelle, après les fameux accords de 98. Laisser l'Irlande du Nord, qui est très loin d'être homogène entre les indépendantistes et les unionistes, décider de ce qui serait décidé, de ce qui serait fait tous les 4 ans de manière un peu autonome. Je veux dire, on n'a jamais vu ça. Ça devait du grand spectacle.
Thierry Drillon, à votre regard sur ce positionnement de l'Irlande du Nord au cœur des négociations actuellement ?
Je vais vous dire, je crois que nous sommes bien au-delà des sujets de l'Irlande du Nord ou des sujets très politiques internes du Royaume-Uni. La position de la Chambre a toujours été extrêmement claire. Si Brexit il doit y avoir pour des raisons démocratiques que nous devons respecter, nous sommes pour un Remain économique. Je crois que quelle que soit la solution, d'abord deux choses, make it happen now. Et la deuxième chose, c'est que, à la limite, je crois que le sujet du Brexit n'est plus le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on transforme tout ce travail qui a été effectué en opportunité. Hein, et c'est le chef d'entreprise qui vous dit ça. D'abord, je pense que c'est une triple opportunité. Une opportunité pour la France de réinventer ses relations avec le Royaume-Uni demain et après-demain. Le Royaume-Uni est, qui restera...
Le seul pays avec lequel la France, l'un des seuls pays avec lesquels la France est en excédent commercial.
Absolument. Donc est et restera un très grand partenaire commercial avec des relations historiques. Deux, je pense que c'est une opportunité aussi pour la France de valoriser son attractivité et le site France. Et c'est vrai que nous n'avons pas toujours été dans cette situation-là et je m'en félicite. Et la troisième chose, c'est que cela, c'est aussi une opportunité pour l'Europe de se réinventer. Pourquoi ? Parce que l'Europe a été créée à l'époque à 7. Aujourd'hui, nous sommes 27. Et donc, force est de constater que entre les traités, la gouvernance, le mode opératoire, etc., il est absolument nécessaire de transformer les choses. Le dernier élément, vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui doit être fait par la Commission, et depuis 3 ans, elle est arrêtée par ce sujet. Et je pense que vraiment, il faut que tout le monde s'en mette au boulot.
Une occasion pour l'Union européenne de se réinventer et aussi pour la politique britannique, en l'occurrence, Catherine Mathieu. Il pourrait y avoir des élections anticipées. En tout cas, on voit bien que le Brexit provoque au Royaume-Uni une crise politique.
Oui, effectivement, il provoque une crise politique. Bon, il faut voir qu'on a quand même des discussions maintenant avec l'Union, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne depuis 2 ans. Mais à propos de l'Europe qui doit se réinventer, je suis tout à fait d'accord avec vous, Thierry Drillon, mais ce n'est pas du tout ce que fait l'Europe depuis 2 ans. C'est-à-dire que depuis 2 ans, la position officielle de l'Union européenne, c'est de dire, alors, il y a 4 libertés fondamentales dans l'Union européenne, la liberté de circulation des services, des capitaux, des marchandises et du travail. Le Royaume-Uni a voté largement, pour ceux qui ont voté pour sortir de l'Union européenne, parce qu'ils remettaient en cause cette question de la liberté de circulation
des travailleurs,
et qu'ils remettaient en cause par ailleurs aussi l'autorité de la Cour de justice européenne. Que fait l'Union européenne depuis 3 ans? Elle dit aux Britanniques, voilà le modèle de l'Union européenne, c'est ce modèle-là, et on ne change pas, et on ne bouge pas d'un iota. Alors qu'en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut réinventer l'Union européenne et l'Europe. On voit bien qu'il n'y a pas que la question du Royaume-Uni qui se pose, mais aux frontières de l'Europe aujourd'hui, il y a de nombreux pays qui sont là. Certains ont souhaité adhérer à l'Union européenne il y a fort longtemps, comme la Turquie, d'autres, l'Ukraine, l'Albanie, d'autres pays à l'Est aimeraient avoir davantage de liens économiques renforcés avec l'Union européenne. Est-ce qu'on va dire que tout le temps, que le seul modèle de l'Union européenne, c'est le modèle qu'on a construit à 6 ou 7 pays? Ou est-ce qu'on va peut-être à un moment donné se dire il faut voir une autre forme d'intégration économique moins poussée que l'Union européenne, alors, qui serait peut-être une Europe des cercles?
Est-ce qu'il faudrait une Union européenne à la carte, à géométrie variable, Thierry Drillon, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors écoutez, Catherine Mathieu, je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense que cette réinvention de l'Europe, elle est juste absolument nécessaire. Alors l'euro-optimiste que je suis pense aussi que ce qui s'est passé avec le Brexit a été une formidable opportunité d'unité pour les 27 pays européens. Et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu une unité pareille. Donc je m'en félicite et il faut savoir le constater. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas nécessité de réinventer le mode opératoire de façon à faire en sorte que cette Europe à 27, eh bien, elle soit régie avec des règles nouvelles, avec aussi la capacité de pouvoir prendre en compte des partenaires nouveaux, et vous avez tout à fait raison. Mais je crois aussi qu'il y a un certain nombre de principes fondamentaux qui doivent demeurer, et que l'Europe est une formidable opportunité, un formidable marché, on y reviendra, compte tenu de l'absence de leadership mondial des États-Unis. Et il n'empêche qu'on ne peut pas être dedans et dehors en même temps. Donc, je crois que ça, c'est un principe très simple.
Oui, tout à fait. Moi, je m'inscris tout à fait, évidemment, dans ce qui vient d'être dit. Je renvoie quand même à la publication que nous avons faite il y a 2 ans avec l'Institut Montaigne, justement sur l'Europe dont nous avons besoin. Et c'est là, je rappelle cette publication, bon, pas parce que je fais partie des auteurs autour de Ramon Fernandez et l'Institut Montaigne, mais aussi et surtout parce que cela a été proposé au gouvernement qui a repris lors du G7 une trentaine de propositions de ce livre. Et ce qui est important, justement, c'est cette Europe à géométrie variable avec des cercles, en fait, différents, avec des gouvernance associée aux différents cercles. D'abord, en fait, le premier cercle étant vraiment l'Europe qui partage la même monnaie, donc vraiment la zone euro, avec une gouvernance adaptée et un ministre des Finances de la zone euro. Bon, ce n'est pas choquant lorsqu'on a une monnaie commune, évidemment, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Après, un cercle beaucoup plus large, donc vraiment d'Union européenne hors zone euro. Un cercle beaucoup plus large encore, avec qui inclut les pays d'Union méditerranéenne, Euro-Méditerranée. Et un dernier cercle qui inclut notre position, c'était la Turquie, et j'ai vu notre président qui rajoutait la Russie. Comme ces cercles-là, des gouvernances associées à différents cercles, avec des gens qui peuvent avancer ensemble et aller plus vite vers la décision, c'est ça.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiphaine de Roquigny.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for 1,000 years
your tears, I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never, ever tear us apart.
Never tear us apart de Paloma Faith sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Et nous parlons du feuilleton du Brexit en compagnie de Catherine Mathieu, Thierry Drillon et Jimmy Zhou. Alors la question qui se pose est effectivement celle de la préparation en cas de no deal. On le disait, la France pourrait être particulièrement touchée puisque le Royaume-Uni est l'un des seuls pays avec lesquels la France a un excédent commercial. Comment, Jimmy Zhou, se sont déjà organisées les grandes entreprises que vous accompagnez? J'imagine que les choses sont différentes selon les secteurs.
Oui, tout à fait. Thierry l'a un peu dit tout à l'heure. Je résume toujours en trois blocs, hein, trois grands blocs. Vous avez vraiment le monde des institutions financières. Alors elles, il est clair que vu l'argent qui était très important de mobiliser pour se préparer au Brexit, il est clair qu'elles ont fait les choses complètement, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes. Elles se sont alignées sous l'option de Brexit, hein, donc déjà même à fin mars. Et celle qui a le plus dépensé, Barclays, hein, je les cite parce qu'ils ont fait un communiqué quand même très très largement sur le sujet, bon, ils sont prêts. C'est-à-dire qu'en gros, prêts, ça veut dire qu'ils ont enclenché l'ensemble des actions permettant de vivre en cas de hard Brexit. Ils n'ont pas forcément encore déplacé les grandes masses de population, ils attendent de voir le pays qu'ils choisiront. Ils se laissent le temps de le faire parce qu'ils peuvent l'avoir.
Et concrètement, mais ça passe par quoi?
En gros, ça veut dire pour une banque, ça veut dire que je vais déplacer les front office. C'est-à-dire que bon, ben, c'est là, puisque le business, hein, ben, l'activité vraiment se fait avec les clients, donc ils ont déplacé le front office. Donc ils ont acheté des immeubles à Paris. Hein, donc certaines, je ne citerai pas parce qu'on était sur quelques deals, mais bon, ils ont acheté des beaux immeubles bien placés dans Paris. Lorsque vous êtes une grande banque américaine, bon, je vais loin. Voilà, donc ils ont acheté, ils ont déplacé des traders. Donc aujourd'hui, vous avez des grands bureaux, 4-5 patrons de desk avec des bureaux vides pour l'instant, mais qui sont prêts. Voilà. Donc ils n'ont pas encore déplacé des populations. Mais tout est prêt.
Donc vous diriez que du côté du secteur financier, la préparation a eu lieu. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas vraiment de signes de panique sur les marchés financiers, Thierry Drillon, à l'heure actuelle.
Non, je trouve, vous savez, j'aime cette phrase qui dit le calme est un muscle puissant. Et un dirigeant d'entreprise se doit d'être calme. Alors, Jimmy l'a rappelé, un certain nombre de secteurs se sont préparés très en amont, et heureusement d'ailleurs. Et d'ailleurs, je voudrais tordre le cou à beaucoup, on va dire, d'informations qui ont circulé sur des situations de chaos. Que ce soit dans l'aérien, que ce soit au niveau logistique, que ce soit au niveau douanier, etc. Je crois que tout ça n'est pas très très sérieux.
Alors expliquez-nous pourquoi.
Parce que tout simplement, lorsque vous travaillez sur un dossier depuis 3 ans, les entreprises ont fait ce qu'on appelle un business assessment. Hein. Ils ont pris toute leur chaîne de valeur et ils ont regardé dans leur chaîne de valeur tous les endroits où il y avait des interactions avec le Royaume-Uni, hein, que ce soit au niveau des personnes, au niveau des capitaux, au niveau des biens, etc. Et donc ce travail, il a été fait. Hein. Le seul bémol que je mettrais, c'est pour les TPE. Mais autrement, sur le reste, ce travail, il a été fait. Je voudrais aussi rappeler que bon nombre de transactions, beaucoup sont numérisées. Hein? Donc finalement, quel que soit le lieu où vous soyez, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc ce travail, il a été effectué.
Il y a quand même une inquiétude, Thierry Drillon, pardon de vous interrompre, mais autour d'un possible engorgement autour du port de Douvres, par lequel passe 20% du commerce britannique. Ça va être quand même difficile d'éviter des embouteillages monstres, au moins pendant les premiers mois.
Écoutez, vous savez, je crois que par rapport à ça, quand vous rentrez dans le détail, et je l'ai fait, beaucoup de choses ne sont pas valides. J'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur général des douanes et de lui demander de m'expliquer ce qui avait été mis en place depuis 3 ans. Hein, le recrutement de quelques 700 douaniers sur 2 ans, des vétérinaires, etc., etc., des entrepôts. Donc tout ça est prêt. Mmh. Et cette discussion, je l'ai eue avec lui il y a 6 mois. D'accord ? Donc je pense que la France a fait un énorme travail de préparation.
Mais alors justement, peut-être que la France l'a fait, mais peut-être que c'est moins le cas du côté du Royaume-Uni, Catherine Mathieu.
Du côté du Royaume-Uni, on a aussi fait un gros travail de préparation. Le gouvernement a publié plusieurs rapports sur ce sujet, faisant le point, dont un la semaine dernière. Et on voit bien aussi, on a recruté plus de 800 douaniers de l'autre côté de la Manche. On a pris beaucoup de mesures. Alors, c'est toujours dur hein, de dire aujourd'hui comment ça se passerait si du jour au lendemain, il y a une sortie sans accord et que effectivement on remet des barrières douanières et d'estimer précisément quel serait le délai d'attente au niveau de l'entrée du tunnel sous la Manche, par exemple. Bon, ce que disent quand même un grand nombre d'analyses aujourd'hui, c'est qu'effectivement, comme vous le disiez à l'instant, Thierry Drillon, les entreprises sont largement prêtes, que très probablement, il y aurait tout de même des files et des files d'attente qui seraient plus longues au niveau des points de passage, mais que ça pourrait se gérer progressivement et que ça serait pas un aussi gros problème que ça. Après, moi, je dirais peut-être aujourd'hui sur la préparation des entreprises, quand même, la question qui me pose plus, qui m'interroge davantage, c'est la question d'investissement des entreprises. Parce qu'on a bien vu quand même depuis 3 ans que les entreprises attendent avant d'investir. On a vraiment, au Royaume-Uni, eu un investissement des entreprises qui est resté plat depuis le vote de juin 2016.
Ça pose problème au Royaume-Uni, mais à l'inverse, les investissements venus du Royaume-Uni dans l'Union européenne ont augmenté.
Mais en fait, ça n'est pas si clair que ça. Parce que si vous prenez, par exemple, aujourd'hui, la situation d'Airbus, qui a un mode de production très intégré entre l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne, prendre la décision aujourd'hui de fermer un site britannique alors que tout fonctionne très bien depuis des années, ça n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Et ensuite, mettre en place une nouvelle structure ailleurs dans l'Union européenne, c'est quand même quelque chose aussi qui prend du temps et qui demande de l'argent, de l'investissement. Donc sur l'aspect de l'investissement, c'est plus pour moi aujourd'hui le point d'interrogation. Que feront les entreprises? Pour l'instant, il me semble que dans l'ensemble des secteurs industriels, on a beaucoup parlé de l'automobile aussi, où là aussi les modes de production sont très intégrés. Les entreprises attendent. Elles attendent de voir s'il y aura un accord ou pas. Et du côté du gouvernement britannique, ce qu'on leur dit depuis de nombreux mois, c'est que ça n'est pas du côté du britannique qu'on va les empêcher de continuer à faire leur processus de production intégrée à l'intérieur de l'Union européenne, parce que par exemple, le Royaume-Uni a dit nous ne mettrons pas de droits de douane s'il y a une sortie sans accord sur les produits, les pièces détachées automobiles qui transitent.
Mais sur les automobiles, oui.
Sur les automobiles finies, parce qu'en fait, elles sont achetées exactement par le consommateur britannique. Oui. Mais pour les chaînes de production, du côté britannique, on ne mettra pas de droits de douane. C'est un message fort adressé aux entreprises.
Jimmy Zou.
Oui, j'avais un exemple justement sur l'automobile où le fait de faire justement ces préparations vous permet d'obtenir des résultats parfois un peu contre-intuitifs. On a fait cette étude, je discutais avec le CEO de Nissan Europe que je connais bien et qui me disait, je prends le cas de Nissan, donc Nissan c'est 476 000 véhicules produits par an, c'est 4 000 personnes et 3 000 de sous-traitants autour, donc vraiment 7 000 personnes. Juste pour vous donner le côté intégration, donc c'est un véhicule qui sort toutes les 2 minutes, vous voyez quand même, sachant qu'un véhicule c'est entre 10 000 et 30 000 pièces. Donc 10 000 pièces pour une voiture pas trop chère, bas de gamme, une voiture de 30 000 pièces pour une voiture haut de gamme. Donc imaginez toute la logistique qu'il y a derrière. Pardonnez-moi, le dernier point, c'est que 2/3 des pièces sont importées, donc de l'Europe, et 3/4 de la production est exportée. Donc là, vous imaginez l'intégration vraiment dans tous les sens. Mais en fait, en faisant ces études, cette étude très précise de l'impact sur le Brexit, ils se sont rendus compte que finalement, pour les véhicules existants, il valait mieux les garder en fait au Royaume-Uni. Parce que quelque part, pour amortir ces chaînes que l'on déplacerait dans un secteur qui a des marges très très faibles, cela prendrait 10 ans. Donc 10 ans, si vous voulez, pour recréer un écosystème dans un autre pays, c'est très long. Je rappelle que le cycle de vie d'une voiture, c'est 7 ans. Donc 7 ans pour un cycle de vie d'une voiture, 10 ans pour déplacer, pour amortir une chaîne. Il vaut mieux garder les véhicules existants en Grande-Bretagne. Par contre, la question qui se pose justement sur les investissements, c'est qu'ils se disent qu'ils pensaient investir massivement en Grande-Bretagne, puisqu'il y a un bassin quand même très favorable à l'investissement automobile. Ben, pour les prochains véhicules, on ne fera plus. Et c'est là que ça change en fait.
Vous partagez cette inquiétude sur les investissements, Thierry Drillon ?
Je pense que en termes d'investissement, il y a des choix qui doivent s'opérer. Et vous savez, le monde est perçu comme finalement des zones d'investissement, des plaques tectoniques sur lesquelles vous devez faire des investissements à l'horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans sur le long terme. Donc évidemment, ces événements-là sont pris en compte. Est-ce que je suis inquiet sur les investissements globalement, au niveau du business? Non, parce que les vents, globalement, sont porteurs aujourd'hui. Il y a beaucoup d'argent dans le système. Oui. Peut-être trop d'ailleurs, c'est une autre question. Mais il y a beaucoup d'argent dans le système.
L'argent coûte peu cher grâce au taux d'intérêt très bas.
J'ai aussi entendu dire que sur les personnes, ça allait avoir un impact très important. Moi, je me réjouis par exemple qu'on parlait de l'Union européenne. L'Union européenne ait dit le programme Erasmus+, pour les étudiants qui étudient au Royaume-Uni et les étudiants anglais qui étudient en France, eh bien, tous les accompagnements de l'Europe perdureront au moins pendant 2 à 3 ans. Donc, je crois aussi que il est important de raison garder, que les choses ne s'écrouleront pas et que des solutions seront trouvées étape par étape. Mais encore une fois, le vrai sujet, c'est après le Brexit.
La transition en douceur, selon vous, Thierry Drillon. Mais alors tout de même, du côté du Royaume-Uni, on redoute des pénuries, et notamment des pénuries de nourriture et de médicaments. Et il y a déjà des mesures qui ont été prises, Catherine Mathieu, pour éviter cela.
Et des stocks.
Oui, effectivement, il y a eu des stocks qui ont été faits il y a quelques mois. Alors sur la question de l'alimentation, c'est vrai que là, c'est un peu un point faible de l'économie britannique parce que le Royaume-Uni importe 30% de ce qu'il consomme. Donc c'est vrai que là, pour le Royaume-Uni, c'est important de garder un accès, enfin de pouvoir continuer à importer. Et j'ajouterais que dans le cas particulier d'une sortie sans accord, ce qui se passerait, c'est que si l'Union européenne fait ce qu'elle a prévu de faire, c'est-à-dire de remettre en place des droits de douane tels que le permet l'Organisation mondiale du commerce, ça voudrait dire pour les produits alimentaires des droits de douane élevés, qui pourraient être de l'ordre de 40 à 50%. Donc, pour les exportateurs britanniques, parce que effectivement, les Britanniques importent davantage de produits agroalimentaires qu'ils n'en exportent. Mais ils ont quand même certains points forts, et notamment en matière d'élevage de moutons. Et donc, quand on regarde la situation qui est particulièrement importante pour le Pays de Galles, effectivement, il y a une grande inquiétude au Pays de Galles en disant si du jour au lendemain, il y a une sortie sans accord, ça veut dire pour nos agriculteurs, en fait, des pertes de revenus parce qu'avec des prix qui augmenteront nettement vers l'Union européenne, même si on peut penser qu'après le lendemain du Brexit, il y aurait une baisse du taux de change de la livre. Si on imagine une baisse de l'ordre de 10%, des droits de douane de 40 à 50%, ça ne permettrait pas de faire la différence. Et puis donc, on aurait très probablement, du côté effectivement britannique, une inquiétude pour l'alimentation à très court terme. À plus long terme, c'est toujours la même question. Hein. Il y a des produits de substitution qui peuvent se mettre en place. Il y aura probablement une alimentation, si on se met vraiment dans une situation très dure de Brexit sans accord, à laquelle je ne crois pas.
Mangeons plus de poissons.
Voilà, alors ils ont des points forts qui sont effectivement en matière de pêche, sur certains fruits et légumes. Bon, ça veut dire aussi moins de variété pour les consommateurs britanniques, mais tout de même, la possibilité de continuer à vivre.
Et inquiétude qui est partagée d'ailleurs par l'Irlande aussi, qui entend protéger des secteurs clés comme l'agriculture et la pêche. Thierry Drillon, vous vouliez réagir?
Oui, je pense que le sujet, effectivement, c'est de savoir comment les entreprises se sont préparées et comment est-ce qu'on les a fait en sorte de pouvoir s'assurer que les produits première nécessité soit disponible. Et je pense notamment à tout ce qui est médicaments. Hein. Vous prenez l'insuline. Il n'y a pas de fabricant d'insuline au Royaume-Uni. Et donc, il y a eu des stocks massifs qui ont été effectués. Je discutais de manière très pragmatique l'autre jour avec le président d'un grand groupe dans le domaine de la pharmacie, Sanofi. Et il me disait, je lui disais, où est-ce que tu en es? Comment ça se passe? Et écoute, nous, aujourd'hui, on a prévu pour avoir 16 semaines de stock au Royaume-Uni. 16 semaines. Concrètement. Et je pense que bon nombre de grandes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire se sont organisées avec leurs interlocuteurs pour faire en sorte que dans cette période, quelle que soit la décision, qui sera une période chaotique, qui sera une période où il va falloir que tout le monde adapte à l'environnement qui a changé, il y a un certain nombre de mesures concrètes qui ont été
prises. Période de transition qui pourrait durer, bien sûr, plus de 16 semaines, Catherine Mathieu.
Mais oui, parce que sur la question des médicaments, moi, franchement, j'ai du mal à voir pourquoi les fabricants de médicaments qui ne sont pas britanniques ne souhaiteraient plus exporter au Royaume-Uni. Et que se passerait-il en cas d'absence d'accord? Je ne vois vraiment pas là ce qui bloquerait.
Alors, c'est l'aspect logistique, c'est au moins
l'aspect logistique. Il y a l'aspect logistique, mais d'accord. Mais en fait, on sait tout de même... Alors, l'aspect logistique, je l'entends aussi, mais on est quand même... On a une Union européenne qui concerne à peu près la moitié de nos échanges extérieurs. Donc, on sait commercer avec le reste du monde. Oui. On ne commerce pas qu'avec l'Union européenne. Et on importe des médicaments, par exemple, d'autres pays qui ne sont pas des pays de l'Union européenne. Donc, j'ai du mal à voir comment ça pourrait véritablement être un problème de fond.
Il y a une crainte du Royaume-Uni.
Excusez-moi. Je pense que le sujet, il n'est pas « je veux ou je veux pas ». C'est « est-ce que, d'un point de vue physique, je suis capable de faire face à des flux qui vont être perturbés. Le vrai sujet, c'est celui-là. Donc, quand le patron de Sanofi, son sujet, c'est est-ce qu'il veut continuer à faire du business avec nos amis britanniques? La réponse est évidemment oui. Le sujet, c'est comment faire en sorte que lorsque Madame Thompson va aller dans sa pharmacie et qu'elle va trouver le médicament de Marc Sanofi et qu'elle va s'apercevoir qu'il n'y en a plus, son sujet, c'est celui-là.
Mais d'accord, mais donc voilà. C'est principalement un problème de stockage à court terme.
Oui. Mais les sujets dont nous parlons sont des sujets... Parce qu'on est en train de tout mélanger là. Le sujet dont nous parlons là, c'est la période, quelle que soit la décision qui sera prise, de gestion d'une logistique qui va être passablement modifié.
C'est évidemment difficile de faire des hypothèses, puisqu'on peut avoir un non-accord à partir du 1er novembre, comme on peut avoir un report, effectivement.
Oui, et puis comme par hasard, vous avez aussi l'émotion du jour d'après, où les gens vont faire des stocks d'eau, de bouteilles d'eau, de packs de lait. Donc, logistique compliquée, plus côté émotionnel de la situation du jour d'après, imaginez ce que ça peut donner. Donc,
oui. Et il y a un autre aspect qui peut inquiéter également, c'est l'approvisionnement de la Grande-Bretagne en électricité, puisque les tarifs vont augmenter potentiellement beaucoup pour le Royaume-Uni, ce qui pourrait éventuellement remettre en cause, Catherine Mathieu, cette décision qui avait été prise en Grande-Bretagne de fermer toutes les centrales électriques au charbon d'ici à 2025.
Ah ouais, alors la question que vous posez, c'est vraiment une question à plus long terme, hein, parce qu'il y a d'ailleurs aujourd'hui, parmi les forces politiques britanniques, beaucoup de discussions sur ce que doit faire le Royaume-Uni en termes d'émissions zéro. Et donc, il y a un grand sujet de fond qui, pour moi, est vraiment, je pense, indépendant de la question du Brexit, hein, vraiment une question politique qui est là, et pas uniquement au Royaume-Uni, qui est là pour nous aussi. Hein.
Mais le système européen d'approvisionnement en électricité permettait à la Grande-Bretagne d'en profiter, ce ne sera plus le cas. Est-ce que ça ne va pas compliquer les choses pour la
Je ne sais pas si ça ne serait plus le cas, parce qu'en fait, tout dépend de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il faut
en cas d'un Brexit sans accord.
Se placer, oui, dans ce cas-là. Et là, et qu'est-ce que ça veut dire aussi, une sortie sans accord? Autant à très court terme, ça veut dire le retour des règles de l'Organisation mondiale du commerce et donc la mise en place de barrières douanières. Mais qu'est-ce qui empêche ensuite les entreprises ou les secteurs de négocier des accords au cas par cas? Et donc très probablement, y compris en ce qui concerne l'électricité, il y aurait, je pense, dès le lendemain de la sortie du Royaume-Uni, si elle se faisait sans accord, la discussion d'accord pour savoir comment on continue à approvisionner le marché britannique.
Il n'y aura pas nécessairement des augmentations de prix pour les consommateurs?
Pas nécessairement. Hein. C'est très difficile de répondre à cette question. Parce qu'en fait, que feraient les fournisseurs d'électricité européens? Est-ce que c'est pour eux un grand marché, le marché britannique? Je pense qu'ils auraient intérêt à continuer à travailler dans de bonnes conditions au Royaume-Uni. Et du côté des Britanniques, je pense qu'on fera tout aussi pour éviter que les prix de l'électricité augmentent, quitte à changer la fiscalité pour baisser les coûts de l'électricité. Donc je pense qu'au final, il n'y aurait pas nécessairement un impact important.
Ce qu'on observe en tout cas, c'est qu'il y a des budgets qui ont été déjà élaborés en lien avec la possibilité d'un no deal. Je pense par exemple à l'Irlande qui a prévu d'y consacrer 1 milliard d'euros d'ores et déjà. On voit que les États se préparent à accompagner des secteurs clés de leurs économies, Jimmy Zhu.
Oui, tout à fait. C'est exactement ce que disait Thierry tout à l'heure. C'est-à-dire que le vrai sujet va être vraiment pour les petites entreprises. Autant les grandes, je peux vous dire, ça sera
quelque chose
de
sortir.
Plus. Mais elles ont déjà une logique internationale, donc un pays de plus ou de moins avec lequel on sait en plus travailler. Vous savez, c'est pas le plus grand sujet de panique. Quand pour certains grands secteurs dits stratégiques comme la défense ou autres, il y a même déjà des accords qui sont déjà des accords supra-européens. Donc, vous savez, donc c'est pas très très grave. Moi, quand je discute avec Airbus, ils sont pas si inquiets que ça. Ils me disent qu'ils produisent 1600 ailes d'avion par an en Grande-Bretagne. Ils vivent très bien avec ça.
Donc, en revanche, les PME et les TPE sont plus inquiètes.
Elles sont beaucoup plus inquiètes. Elles sont beaucoup plus inquiètes parce que elles peuvent avoir des logiques où elles vont souffrir parce qu'elles ont en fait un seul vrai processus, si vous voulez, aujourd'hui avec la Grande-Bretagne. Donc, changer tout ça et sachant qu'elles ne sont pas prioritaires pour beaucoup de raisons parce que d'autres sont organisées différemment, elles vont souffrir. Et ce milliard est vraiment pour ça. La Grande-Bretagne a prévu plutôt presque 10 milliards de mémoire. Hein. Ils ont prévu 10 milliards parce qu'ils pensent qu'ils vont également avoir ce type de sujet. La France n'a rien budgété pour l'instant, que je sache, mais bon, ça peut se faire très vite.
Oui, les mesures qui sont prises surtout, alors dans le cas de l'Irlande, ça concerne l'agriculture. Hein. Ce serait vraiment là que ce serait difficile à très court terme, s'il n'y a pas d'accord, de continuer à exporter, à importer. Donc il y a le poids du secteur agricole qui est très important pour l'Irlande. Et du côté de la France, par exemple, en termes de mesures, ou de l'Union européenne en général, on a déjà prévu des fonds pour le secteur de la pêche. Hein. Il y a vraiment des secteurs qui seraient très fortement touchés par une sortie sans accord et qui sont plutôt agricoles et pêche.
Et l'Irlande, en particulier, effectivement, serait pas mal particulièrement touchée par une sortie sans accord, alors même qu'elle était dans une phase de reprise économique très importante, autour de 5% de croissance économique cette année, 8% l'an dernier, Catherine Mathieu. Une sortie sans accord pourrait freiner ce mouvement?
Oui, alors ça faisait partie justement des débats dans le cadre de la présentation du budget irlandais. On a d'un côté une économie irlandaise qui va très bien, qui a beaucoup de croissance. Donc a priori, il faudrait plutôt que le budget resserre la vis sur le plan macroéconomique. Mais le gouvernement a pris la décision de prévoir des mesures en cas de sortie sans accord pour pouvoir soutenir l'économie britannique. Mais bon, de ce fait, entre guillemets, par hasard ou par chance, s'il y a une sortie sans accord aujourd'hui pour l'Irlande, ça sera pas le moment le plus difficile pour l'Irlande pour gérer, parce que l'Irlande est aujourd'hui une économie qui se porte bien, la République d'Irlande.
On arrive au terme de cette émission. J'aimerais vous entendre chacun sur ce que vous attendez des négociations express qui vont être menées la semaine prochaine, mais également sur les prochains mois et les difficultés auxquelles vont faire face les entreprises. Thierry Drillon.
Merci de me donner l'opportunité de clore plusieurs choses.
Vous l'aurez tous.
Oui. Non, mais je crois qu'il faut que la raison l'emporte. Et j'ai envie de faire en sorte que on respecte les peuples, on respecte les relations passées, présentes et futures. Les relations entre nos deux pays resteront des relations uniques, très fortes. Nos amis britanniques sont des gens très pragmatiques. 95 milliards de business entre les deux pays, c'est quelque chose qui se respecte. Donc je n'ose croire que des solutions ne seront pas trouvées, mais encore une fois, je pense que le sujet du Brexit n'en est plus un aujourd'hui. Et simplement, je terminerai en disant que lors de ce futur sommet, j'aspire à faire en sorte que nos dirigeants, qui prendront les décisions, ne pensent pas peut-être à eux aujourd'hui, mais pensent peut-être aux futures générations.
Catherine Mathieu.
L'espoir, je dirais, peut-être aujourd'hui, à la fois du côté britannique et de l'Union européenne, c'est de trouver effectivement un accord qui, pour moi, pourrait reposer uniquement sur le fait de trouver une façon de sortir de cette impasse de la frontière irlandaise. Donc peut-être avec un système d'accord temporaire, ça serait peut-être à court terme la seule façon de s'en sortir des deux côtés des négociations. À plus long terme, je pense qu'effectivement la question du Brexit pose vraiment la question de l'Europe et de ce qu'on veut faire de l'Union européenne. Et j'espère aussi qu'on trouvera une façon d'intégrer de façon large les pays, de respecter leurs souhaits de souveraineté, d'indépendance, tout en ayant une Europe intégrée.
Cela montre en tout cas qu'une fois qu'on a fait l'intégration économique, c'est difficile de revenir en arrière, Jimmy Zhu.
Oui, tout à fait. Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est faites vite, faites simple et soyez vraiment très très bref en fait, pour qu'on passe très vite à autre chose, qu'on passe à autre chose et qu'on passe au futur de l'Europe et qu'on passe également au futur de la relation franco-britannique. Voilà, moi c'est ça les grands sujets.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois, Catherine Mathieu, Thierry Drillon et Jimmy Zhu, d'avoir participé à cette discussion. Je rappelle, Catherine Mathieu, que vous avez écrit avec Henri Sterdignac le chapitre intitulé « Brexit, une sortie impossible » paru dans l'économie européenne 2019. C'était à la découverte. Et alors, vous me montrez un ouvrage, Thierry Drillon. De quoi s'agit-il? Expliquez-nous.
Alors, écoutez, pour essayer de contribuer modestement avec l'ensemble des 2000 entreprises qui sont au sein de la Chambre de commerce franco-britannique, nous avons créé le Cross Channel Institute, dont l'objectif est de développer l'ensemble des relations économiques entre les deux pays. Et nous avons fait paraître le premier baromètre des relations économiques entre les deux pays. Voilà, je voulais simplement en parler.
Le message est passé. Concret. Un grand merci à tous les trois. Et comme un vendredi sur deux, nous accueillons notre partenaire d'Alternative économique. Aujourd'hui, c'est Catherine André qui nous rejoint autour de la table. Bonjour Catherine.
Bonjour Tiffaine.
Et vous avez souhaité revenir aujourd'hui sur les termes du débat qui agite cette semaine l'Assemblée nationale et le Sénat autour de la politique migratoire en France.
Oui, tout à fait. Je souhaitais revenir notamment sur quelques idées reçues qui sous-tendent ce débat donc voulu par le président Macron, et qui ont décidément la vie dure. Y a-t-il vraiment des arrivées massives d'immigrés en France au point qu'elle serait en passe de devenir, je cite, « le premier pays d'Europe pour la demande d'asile ». Ce diagnostic est tout simplement faux, a expliqué lundi devant les députés François Héran, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Migration et Société, car il repose sur une comparaison bancale qui se contente de manier des chiffres absolus. Quand on veut comparer les pressions migratoires qui s'exercent à travers l'Europe, il faut, pour François Héran, raisonner proportionnellement en tenant compte de la population des pays concernés, de leur richesse et de leur territoire.
C'est-à-dire ?
Un exemple, de juillet 2018 à juin 2019, la France a enregistré en l'espace de 12 mois quelques 115 000 demandes d'asile et la Grèce 66 000. Peut-on pour autant en conclure que la France subit une pression migratoire deux fois plus forte que la Grèce ? Non, tout simplement parce qu'elle est six fois plus peuplée. 67 millions d'habitants contre 10,8 et en faisant le rapport nombre de demandes par habitant, on voit que la Grèce a reçu en un an 6100 demandes d'asile par million d'habitants contre pas plus de 1730 pour la France.
Et alors Catherine, est-ce que la France est un pays particulièrement attractif ?
Alors le nombre de demandeurs d'asile enregistrés en France a en effet progressé dernièrement. Il a augmenté de 25% entre janvier 2017 et juin 2019, alors que dans le même temps, il a reculé de 50% en Allemagne. Cependant, mesurée par millions d'habitants, la France ne se situe qu'au 11e rang en Europe pour ce qui est des demandes d'asile sur les 12 derniers mois. Et au plus fort de la crise migratoire, c'est-à-dire en 2015-2016, elle était au 15e rang.
Donc finalement, ce que vous nous dites, Catherine, c'est que nous surestimons notre pouvoir d'attraction.
Oui, tout à fait. Si le nombre de titres de séjour délivrés a augmenté de 31% entre 2005 et 2018, c'est essentiellement du fait de l'explosion des titres délivrés aux étudiants pour moins d'un an. La migration pour motif de regroupement familial a quant à elle reculé de 24% sur la même période, suite aux durcissements successifs de la législation en la matière. Au total, en 2018, selon l'INSEE, on comptait en France 6,5 millions d'immigrés, c'est-à-dire, rappelons-le, les personnes étrangères nées à l'étranger, parmi lesquelles 2,4 millions ont obtenu la nationalité française. Bref, la France ne représente qu'un dixième des flux migratoires vers l'Europe. Elle est en deçà de la moyenne européenne en termes d'octroi du statut de réfugié par million d'habitants. On peut même dire qu'au regard de sa population et de sa richesse, elle n'a pas pris sa part de la demande d'asile comparée à d'autres pays.
Merci beaucoup Catherine. Un mot sur la une d'Alternatives économiques ce mois-ci ?
Oui, alors ce mois-ci, elle a une donc du numéro d'octobre d'Alternatives économiques. On trouve Le Monde selon Piketty. À l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Capital et idéologie, l'économiste Thomas Piketty revient dans un grand entretien accordé à Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives économiques, sur la dynamique historique des inégalités et les arguments avancés pour les justifier.
Merci Catherine et bon week-end.
Skies reaching far, we arch our backs, so we can see them go further. I speak to you in faded words, muffled by the water.
Save you.
Is the water still running?
On se quitte avec Swimming Pool de Millie Turner. La semaine prochaine, nouvelle série consacrée à l'économie de la famille. Le choix de l'enfant est-il un calcul social? Et comment l'instabilité amoureuse transforme-t-elle les décisions économiques? Voilà quelques-unes des questions qui nous occuperont tout au long de la semaine. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr. Vous pouvez également les écouter en podcast ou bien nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.